Oui, je voulais commencer par une anecdote
américaine. Et donc, c'est l'histoire de Marie Lefkowitz.
Cette dame a été confrontée à une conférence d'un monsieur dans son université, Josh Annan, qui a prétendu que Aristote avait volé le savoir aux Égyptiens. En fait, Aristote aurait affrété des bateaux pour aller voler la bibliothèque d'Alexandrie, ramener les livres dans ses soutes. Vous n'entendez pas?
Est-ce que Gérard est par là? Non, mais attendez. Est-ce que là, vous m'entendez?
Vous mettez le micro
très près de la bouche.
Il faut éteindre le micro. D'accord.
Donc, je vais manger le micro. Ça va mieux?
Quand c'est rouge, en général, c'est que c'est allumé.
Donc, cette dame était offusquée par cette affaire, parce qu'en fait, la bibliothèque d'Alexandrie a été construite après la mort d'Aristote. Donc, Aristote n'était dans l'impossibilité d'aller voler le savoir égyptien pour le ramener en Grèce. Et donc, elle s'est plainte auprès des autorités de l'université en demandant à ce que l'enseignant de son collègue soit rectifié en fonction de la vérité historique. Et il a été répondu ceci, c'est sa vision de l'histoire ancienne et vous avez la vôtre, donc chacun enseignera la sienne, voilà. Donc je commence par ça parce que je tenais à ce que l'on fasse la distinction entre les faits et les opinions, et ça me paraissait être un bon exemple. Alors une partie de notre savoir se fonde sur notre observation personnelle, les analyses que nous en faisons et sur des éléments de connaissance à travers nos lectures. Ce que le citoyen peut tenir pour un fait, et non pour une opinion, repose sur la confiance qu'il le place dans la capacité de ceux qui détiennent une parcelle de savoir, de l'avoir établie rigoureusement et de la transmettre avec sincérité. Pour de nombreux faits, nous devons nous en remettre à d'autres. Nous n'avons pas la possibilité de refaire en laboratoire les expériences pour établir si un élément de savoir est vrai, et nous n'avons pas la capacité ni les moyens d'entreprendre des études conduites par des spécialistes pour vérifier tel ou tel résultat. Alors, le plus souvent, les éléments de connaissance sont transmis par les médias ou des experts qui sont convoqués par eux. Ce qui fait que nous dépendons absolument de ces médias pour qu'un fait soit porté ou non à notre connaissance et qu'il le soit sans manipulation ni interprétation. Il y a quelque chose qui ne va pas, non ?
Je ne sais pas, les gens disent qu'ils n'entendent pas bien. Je pense qu'il faut reculer. Non, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Non, je crois pas. Je crois que ça sert à rien. C'est vraiment la sonorisation.
Moi, je peux me déplacer devant, si vous voulez.
Ouais. Moi, je parlais près du micro, c'est tout.
Dans celui-là.
Non, moi je suis au plus près, là. Je ne sais pas quoi faire de plus.
C'est pas ce qu'il faut faire. On va essayer celui-là. On est désolé, excusez-nous. Alors, si on parle avec celui-là, qu'est-ce que ça ? Essayez celui-là.
Oui. Ça marche ? Non ?
Attendez.
Ça marche ? Oui, ça a l'air mieux. Donc, ces éléments de connaissance sont transmis par les médias ou des experts qui sont convoqués par ces médias. Ce qui fait que nous dépendons absolument des médias pour qu'un fait soit porté à notre connaissance et qu'il le soit sans manipulation ni interprétation. Par ailleurs, nous avons tous des opinions sur des sujets sur lesquels nous sommes ignorants. Une unanimité médiatique sur un fait ou un élément de connaissance peut être pris pour un élément de preuve. Notre opinion va alors dépendre de celle des autres. C'est ce que j'appelle le tiers certificateur. Car dans de nombreuses occasions, nous ne pensons pas par nous-mêmes. Timur Kuran, un économiste américain, a développé ce qu'il appelle une heuristique de la preuve sociale. Nous faisons confiance, souvent, dit-il, aux idées les plus populaires. Si un grand nombre de personnes pensent d'une certaine manière, c'est qu'elles savent quelque chose que nous-mêmes ignorons. Deux têtes valent mieux qu'une. Et nous croyons dans une explication, dans un argument, dans la mesure où la plupart y croient. Il est vrai que cette manière de raisonner nous épargne, ne nous égare pas dans de nombreuses occasions. On a raison, souvent, de penser que nous faisons moins d'erreurs en acceptant une croyance majoritaire. Ce qui nous permet de prendre des décisions rapides sans trop avoir à approfondir. Mais c'est aussi cette mécanique de la preuve sociale, que se répandent et se renforcent les croyances erronées. C'est ce qui rend l'opinion publique si réceptive aux distorsions de savoir. Alors, bien évidemment, la répétition est un élément de la preuve sociale. Des études ont montré la corrélation entre la couverture des médias et ce que les gens trouvent important. Et cette preuve sociale peut être elle-même biaisée par une exposition répétée à la même source d'information. Alors, cette manière de se faire une opinion fonctionne donc aussi pour la question de l'immigration. Si les médias relatent des opinions, des appréciations, des arguments qui vont tous dans le même sens, par exemple sur la nécessité de l'immigration pour alléger les finances publiques, ou sur son rôle économique indispensable, il y a de bonnes chances pour que l'opinion publique suive. C'est d'ailleurs ce que l'on observe en France dans les sondages d'opinion. Alors sur ce sujet, s'y ajoute quelque chose d'autre, qui est assez particulier, c'est une pression sociale importante pour que le discours reste cadré moralement par ce que j'appelle l'idéologie antiraciste. C'est ce qu'un chercheur néerlandais, Jan van Beek, appelle la lecture morale, selon laquelle un savoir n'est pas jugé en fonction de son mérite factuel, mais en raison de ses conséquences sociales, politiques ou morales. Un autre chercheur, Hans Jørgen Nielsen, professeur à l'université de Copenhague, parle, lui, de normes pour désigner ce qu'il est permis d'écrire au sujet de l'immigration et comment le sujet peut être traité. Normes qui, dit-il, varient d'un pays à l'autre. Alors, avoir une opinion positive en soi sur toute question qui a trait à l'immigration, c'est donner le signe de connivence nécessaire pour recevoir des gratifications morales et montrer que l'on a accepté les convenances qui régulent le débat autorisé sur l'immigration. Et le cadre moral de ce discours en France est, comme dans d'autres pays européens, celui de la Deuxième Guerre mondiale. Ainsi, une ligne est tracée entre le licite et l'illicite, auquel les faits doivent avoir la bonne grâce de se conformer. Si tel n'est pas le cas, ces faits ne doivent pas être évoqués. Je vous prends l'exemple de la ministre suédoise de l'intégration, Mona Sahlin, qui refuse de considérer la liaison entre ethnicité et délinquance. C'est, dit-elle, une discussion que nous ne voulons pas avoir. Par contre, dit-elle, on veut bien discuter du lien entre crime et pauvreté. Le mécanisme de la preuve sociale de Timur Kuran fonctionne à plein. Comme il l'écrit d'ailleurs, les faits ou les arguments substantifs qui entrent en conflit avec mes convictions n'auront de l'importance que si mon opinion relève d'un savoir et n'est pas fondée sur la preuve sociale, c'est-à-dire, je le rappelle, sur la vie du plus grand nombre. Des données qui auraient pu avoir un impact avant que mon opinion s'élabore n'en auront plus aucun si elles me sont présentées après coup. Et c'est toujours assez impressionnant de le constater empiriquement. Il arrive ainsi que, dans un même article de presse, on trouve un discours qui va dans le sens attendu, mais accompagné de chiffres qui ne confortent pas le propos. Je vais prendre pour cela l'exemple d'un article du Monde du 4 décembre 2009, qui a prétendu que le passage de 4 millions d'immigrés en 1982 à 5 millions en 2006 correspondait à une stabilisation, alors qu'il reflétait une augmentation de 25%, quand par ailleurs, dans le même article, il considérait qu'une baisse de 0,5% des immigrés de Tunisie était une baisse. Cette information n'a pas troublé grand monde, à part moi, j'en ai bien peur. Et pour essayer d'étayer l'argument de la stabilisation, l'article du Monde faisait référence à une information ancienne, non mise à jour, alors qu'elle aurait pu l'être. J'ai montré que si la population immigrée avait peu varié de 1982 à 1999, elle avait fortement augmenté depuis et dans une proportion relative voisine à la croissance constatée entre 1968 et 1975, qui est un grand moment de l'immigration d'après-guerre. Si l'on apprécie cette augmentation comme une stabilisation, il faut alors déclarer qu'il ne s'est rien passé en matière d'immigration depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors j'ai envoyé mes remarques au Monde, qui n'a rien voulu reconnaître, se fondant lui-même sur la preuve sociale et exhibant des tiers certificateurs. C'est la volonté de pondérer l'opinion publique qui conduit à ce genre de discours orwellien. Mais les médias ne sont pas les seuls à présenter les choses de telle manière que la pensée dominante le reste et que le mécanisme de la preuve sociale ne s'inverse pas. Les producteurs de données se croient eux-mêmes enrôlés dans la mission de maintenir l'opinion publique du bon côté, mais il faut ajouter qu'ils craignent aussi la réprobation morale qui pourrait s'abattre sur eux en cas de dissonance. Alors une façon de ruser avec la réalité, ça peut être de choisir un indicateur qui n'est pas le bon. C'est le cas par exemple lorsqu'on minimise l'immigration étrangère à travers l'évolution du solde migratoire. Au lieu de commenter l'évolution de l'immigration étrangère à travers le nombre d'entrées d'étrangers, on se fonde sur l'évolution du solde des entrées et des sorties qui, je dois le préciser en passant, n'est pas connu et est estimé de très mauvaise façon. Alors, l'immigration étrangère, je vous l'ai dit, s'est fortement accrue récemment. Elle s'est accrue entre 1996 et 2003, puisque le nombre d'étrangers en provenance de pays tiers est passé de 63 000 à 173 000, soit une multiplication par 2,8. Alors maintenant, si on prend l'information donnée par le solde migratoire sur ces années, elle a été censée varier entre 45 000 et 57 000. On comprend donc pourquoi on a souvent préféré le solde migratoire pour décrire l'immigration étrangère. Les normes du discours raisonnable en France et la volonté de réformer l'opinion publique plutôt que de l'informer valent aussi pour les politiques. D'après Paul Schneiderman et Luke Hagendorn, qui ont écrit un ouvrage sur la situation néerlandaise au titre évocateur, le titre est « When Ways of Life Collide », la droite néerlandaise s'est longtemps conformée au discours convenu sur le multiculturalisme par crainte de voir l'opinion publique se renverser sur la question de l'immigration et donc faire ainsi sortir le mauvais génie de la bouteille sans savoir comment l'y faire rentrer, alors même qu'une plus grande sincérité lui aurait profité politiquement. La connaissance peut donc être jugée malvenue si elle ne conforte pas l'opinion que l'on s'est échiné à façonner. Les études d'impact de l'immigration étrangère sont rarissimes, en France en tout cas, et quand elles existent, restent inconnues ou ignorées, y compris par les décideurs. On peut ainsi commander une étude d'impact, la mettre dans le tiroir et faire comme si elle n'avait jamais existé. C'est ce qui est arrivé au rapport Saint-Paul sur l'impact économique, remis à Éric Besson en mai 2009. Au ministère de l'immigration, on ne se souvient déjà plus de l'existence de ce rapport. Alors tout le monde va répétant que l'immigration est un facteur d'enrichissement économique, qu'il est indispensable pour soutenir la démographie vieillissante de la France et pour équilibrer ses comptes publics. Et les dissonances sont imputées à la mauvaise volonté, à une mauvaise disposition des Français d'origine, voire à leur racisme latent. Pourtant, sans parler des études sur le sujet, juste un peu de bon sens serait de nature à modérer les ardeurs. L'immigration comme un grand tout indifférencié, cela n'existe pas. Si on veut parler d'impact, il faut entrer dans les détails, quel âge, quelle qualification, quel niveau d'études et pour s'insérer dans quelle économie. Et le discours enthousiaste sur l'impact économique et démographique de l'immigration n'est guère fondé, au moins d'après les études existantes, généralement étrangères. Et de fait, son impact dépend des caractéristiques des migrants et de l'économie du pays d'accueil. La question du bienfait de l'immigration en général ne peut être tranchée sans se reporter à ses caractéristiques. Et ce qui a été bon autrefois ne l'est pas forcément aujourd'hui. Mais après tout, si c'est une question de sentiment sur les choses, pourquoi vouloir leur trouver un fondement ? Si c'est un objet de croyance, en appeler aux faits apparaît nécessairement déplacé. Un débat aussi corseté moralement que le débat français sur l'immigration laisse forcément plus de place à la formation de l'opinion publique par la preuve sociale, c'est-à-dire par l'imitation, que par des éléments de connaissance bien établis. Mais il laisse aussi cette opinion publique vulnérable à la perception d'un basculement de l'opinion majoritaire, ce qui peut avoir pour effet de renforcer le corsetage du débat dans la crainte de ce basculement. La manipulation de l'opinion publique est un jeu dangereux. Alors on peut dire au contraire qu'une liberté plus grande d'expression aurait sans doute pour effet de laisser plus de champ aux connaissances véritables et à leur complexité, en réduisant la part de nos opinions qui se forment suivant la règle de la preuve sociale, qui revient en fait à penser comme le plus grand nombre. Et penser comme le plus grand nombre devient moins nécessaire quand la tolérance pour une pluralité d'opinions est plus grande. Voilà. Je vous remercie.